c'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Quand je fais une grosse bêtise, je me mets à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer.
Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets à pleurer.
Oui c'est parti, il est parti.
Voilà, c'est parti en direct live, mon cher Hugo, bonjour, bonjour.
Nous sommes en direct live.
Ouais, tout à fait, en différé de plusieurs journées.
De Santiago du Chili.
Ouais, tout à fait, si, pero también.
Voilà. C'est bien, voilà. Tu veux une cervasse
si.
Non, c'est pas ça.
Si, une cervasse tiède.
Ah.
Si. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous
c'est
parler?
C'est la question.
La question.
Pour gagner la fameuse tata.
Ah oui, la fameuse tata. Tout en boîte d'allumettes, non collée, avec l'extincteur offert. Quand même.
Oui, que la question. Donc, quel est l'acteur qui jouait le rôle d'un pianiste et d'un présumé coupable dans un film en noir et blanc de Henri-Georges Clouzot?
Eh bien, aujourd'hui, mon cher Hugo, nous allons parler les duos comiques dans le cinéma. Est-ce que tu as un petit truc à raconter sur les duos précisément, ou est-ce qu'on attaque directement?
Je vais raconter ta vie. Un duo comique est un couple de personnages, de comédiens ou d'humoristes formés dans le but de faire rire le public. Par extension, on peut nommer duo comique un couple de protagonistes involontaires. Un duo comique est souvent structuré sur le même modèle, à l'instar des spectacles de clowns. L'un est Auguste, l'autre le clown blanc. Donc le clown blanc, c'est le personnage sérieux, intelligent et rationnel, c'est-à-dire moi. Et l'Auguste est fruste, outrancier et désordonné, c'est-à-dire Gwen. Pour en citer certains,
oui,
Bourville, Louis de Funès dans La Grande Vadrouille et le Corneau, Ventura et Brel dans L'Emmerdeur, Thierry l'Ermite et Jacques Villeray dans Le Dîner de Cons, Depardieu et Pierre Richard, dans La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, Hugo Tognazzi, merci, Michel Serrault dans La Cage aux Folles, Jean Reno et Clavier, Opération Cornette Beef ou L'Enquête Corse et Les Visiteurs, Reno Depardieu dans Tais-toi, Boone et Paul Ward, Rien à déclarer et bien d'autres.
Et bien d'autres, parce qu'après il y a le Philippe Chevalier et Régis Laspalès dans Ma femme s'appelle Maurice.
Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide.
Oui, c'est pas une pièce de théâtre ?
Oui, mais ça a été un film aussi.
Ah, je savais point.
Ouais, ouais.
J'aime bien ça.
Pas non plus une réussite.
D'accord. Donc, je vais juste faire un petit passage à l'étranger, en fait. Si vous
mais
me permettez,
mais
monsieur.
Fait.
Donc, ça se passe au Japon. Le manzai est une forme de comédie au Japon qui implique généralement un duo comique. Le tsukomi, c'est le personnage donc sérieux, intelligent et rationnel, qui est l'égal de notre clown blanc. Et le bok, le personnage donc frustré, outrancier et désordonné. La plupart des blagues reposent sur des quiproquos, des jeux, des mots et autres gags verbaux. Le manzai est un type de théâtre yosei. Auparavant, il était joué dans la rue et les spectateurs étaient les passants, souvent associés à la région d'Osaka. C'est d'ailleurs Yoshimoto Kogyo, je ne sais pas si tu connais ça,
oui,
grande entreprise de divertissement d'Osaka, qui fit connaître le manzai pour la première fois au public tokyoïte en 1933. Donc le clown blanc, ce personnage était vêtu à l'origine comme un paysan ridicule. Il devient petit à petit le clown blanc. Le clown est d'ailleurs la prononciation anglaise du mot colon, qui voulait autrefois dire paysan.
Des fourches dans le gras du cul, c'est ça que vous allez ramasser comme cadeau de bienvenue.
Et l'Auguste, pour traduire, ça voulait dire idiot en allemand.
Ce soir, je rentre à ma ferme, j'empoisonne toutes mes bêtes, même les petites, je fous le feu à mes récoltes et je tue ma femme.
Donc plusieurs types de comédies existent au cinéma. Donc là, je rentre directement dans le vaste sujet.
Mais vas-y, vas-y.
Donc le comique de situation qui naît d'une situation embarrassante dans laquelle le ou les personnages de l'histoire se trouvent et dont ils ont du mal à s'en sortir, comme moi, j'ai un peu du mal. Donc le film comique, comique proprement parlé, où le comique naît d'un héros lui-même et de l'interaction avec un ou des personnages de la scène associés aux circonstances dans lesquelles ils évoluent. Et donc, ce qui va nous intéresser particulièrement this morning, après-midi, ce soir, donc le duo comique, lorsque des scènes comiques se répètent dans le film et qu'il puise sa dynamique de l'opposition entre les deux personnages principaux de l'histoire, c'est-à-dire les deux héros, comme Laurel et Hardy, donc, qui ont plus de 50 films à leur actif entre 1920 et 1940, Abbott et Costillo, plus de 25 films, 1940 à 1950, et les Blues Brothers aussi dans les années 80. C'est pour faire une petite page états-unienne.
Et je voudrais dire aussi, puisque tu parles justement du clown blanc et de l'Auguste, c'est que, en fait, le clown blanc a un ascendant sur l'Auguste. Il le domine, mais il est en même temps son faire-valoir. C'est l'Auguste, la vedette, la vraie, celui qui déclenche le rire de la foule. L'Auguste aussi peut être apparenté au ça freudien. C'est le côté un petit peu intellectuel, arté de notre émission. La pulsion animale est désorganisée, tandis que le clown blanc, représente le surmoi, l'interdit, la loi.
On va passer côté français, j'avais fini avec le côté américain. Donc, alors qu'on va retrouver Mr. Cerny et Fernando dans Don Camillo, qui a amené 5 films. Marais et Louis de Funès dans Fantomas, 3 films.
Philippe Noiret et Thierry Lhermitte.
Voilà, dans Les Ripoux, qui a amené aussi 3 films.
Voilà, et puis il y a aussi Christian Clavier et Jean Reno qui ont aussi fait 3 films.
Oui, tout à fait. Donc là, je te laisse. Tu veux partir sur des films, c'est cela?
Non, moi je voulais parler un petit peu de Laurel et Hardy. Sous le nom de Laurel et Hardy, ils forment ensemble un tandem comique le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Leur carrière commence d'abord individuellement. Venus en Amérique avec la troupe de musical de Fred Carnot, de même que Chaplin, Laurel fait ses débuts au cinéma en 1917. Après une période de flottement durant laquelle, entre autres occupations, il travaille brièvement pour Larry Simon comme gagman et acteur. Il tourne entre 1923 et 1925 des films en vedette pour Al Roach, Pathé et pour Joe Rock, tout en subissant l'influence de son ex-collègue Chaplin, crée alors une silhouette exceptionnelle, aussi agressive que souple, et dont les films se distinguent autant par leur qualité rythmique que par la finesse des gags. En 1925 et 1926, Laurel retravaille pour Al Roach comme acteur occasionnel et surtout comme réalisateur, métier qu'il apprécie par-dessus tout et qui représente son ambition véritable. C'est alors qu'une rencontre accidentelle avec Hardy, dans un même film, marque le départ de leur carrière commune. Après une période de transition consacrée à fixer les contours de leurs personnages et la nature de leur rapport mutuel, 1926-1927, le tandem prend la forme que l'on connaît et qu'il gardera jusqu'à la fin. Quant à Hardy, avant cette rencontre, il travaille depuis 1913 comme figurant et comme acteur de second rôle pour différentes productions. Il acquiert une certaine notoriété dans les rôles de méchant, dramatique ou comique, puis se spécialise dans le comique, travaillant successivement aux côtés de Bill West, 1917, et de Jim O'Berry, 1920, et de Larry Simon, 1921-1925. Al Roach, pour qui il travaille dès 1923, l'engage à titre exclusif en 1926. Par la suite, il sera le producteur du tandem jusqu'à la fin des années 30. Une fois leur style défini, Laurel et Hardy, à la fin des années 20, inscrivent à leur compte une éblouissante série de courts-métrages dans laquelle ils déclenchent de véritables avalanches de destruction. Battle of Century, 1928, Tutors, idem, Big Business, 1929, etc. Bien qu'ils tournent des courts-métrages jusqu'en 1935, en réussissant, chose rare, à passer sans heurts du muet au parlant, la qualité de cette série ne sera jamais dépassée. Dans leurs longs-métrages, malgré les constances hors succès public, Laurel et Hardy vont même descendre au niveau de comiques d'opérette, dans des productions féeriques où leur comique perd à peu près tout ce qu'il pouvait avoir d'explosif. Fra Diavolo, 1933, La Bohémienne, 1936. À la fin des années 30, toutefois, ils reprennent du souffle dans une série de longs métrages dont les deux premiers sont produits par Laurel lui-même. C'est donc Ton Frère, 1936, Laurel et Hardy au Far West, 1937, et dont Tête de Pioche, 1938, pour lequel il collabore avec Harry Langdon, marque sans doute le sommet. En 1941, commence une lente mais fatale agonie. De moins en moins indépendants, les deux comiques sombrent dans des productions hasardeuses et bâtardes qui, si elles remportent toujours du succès, ne font plus qu'exploiter commercialement leur notoriété. Les personnages n'ont pas moins atteint une sorte d'immortalité, promouvant la destruction au rang d'un des beaux-arts. Ils l'accommodent notamment d'un savant dosage conforme au principe du style Roach, dédoublant la solitude du comique dans un dialogue qui est comme un raccourci exemplaire de nos rapports à l'autre. Avec toute leur irréductible absurdité, ils créent à eux seuls un mythe des plus vivants de toute l'histoire du cinéma. Sans tomber dans l'anecdote psychologique qu'ils transforment constamment en rituel autonome, leur bagarre au ralenti, ils dévoilent comme personne d'autre dans leur meilleur film la face cauchemardesque du quotidien et la folie latente de l'homme individuel ou collectif. Les destructions en chaîne des courts-métrages muets. Même s'il est difficile de les séparer, on peut en plus dire de Laurel, la cheville ouvrière du tandem, qu'il est l'un des génies authentiques de tout le burlesque, à la fois comme réalisateur, comme gagman et comme acteur. L'admiration que lui ont voué de nombreux comiques, de Charlie Chaplin à Jerry Lewis, est d'ailleurs en ce sens éloquent.
Merci Gwen pour cette page laurélienne et hardienne.
Mais c'est vrai que ceux-là, ils ont pour moi un rang à part. C'est vrai que d'avoir déjà passé du muet au parlant, ça veut dire que tu parlais d'un truc visuel à un comique un peu plus, forcément parlant, et donc un peu plus, je dirais pas intellectuel, mais un peu plus formé, quoi. Alors, moi, je continuerai dans le noir et blanc, Gino Cervi et Fernandel dans les fameux Don Camillo. C'est un roman de Giovanni Guareschi. Tu vois, t'as ce personnage de Pépone, Don Pépone, qui est solide, irascible, et en même temps, t'as le Don Camillo, qui est le curé, qui est hâbleur, touchant, et qui parle au Christ. Merci d'avoir suivi.
Je te laissais te dépatouiller.
Voilà. Dépatouiller.
Dépatouiller.
Oui,
parce que c'est la publicité.
Et oui, le duo a été tellement fort, c'est qu'à un moment, la publicité s'est accaparée de ce personnage de Don Camillo pour le faire en Don Patillo. Donc toute l'histoire se passe dans le village de Bracello entre le maire communiste et le curé, évidemment catholique. C'est le duo parfait parce qu'ils sont antinomiques au possible. C'est-à-dire que forcément un communiste est anti-religieux et forcément un religieux est anti-communiste. Mais malgré tout ça, ils ont vécu des choses ensemble et c'est vrai qu'au fil des
oui, parce qu'on se souvient dans un film, quand il y a la grande inondation, ils sont solidaires entre eux.
Et puis je pense qu'il y avait aussi des histoires de guerre, qu'à une époque il y a des souvenirs comme quoi il y avait un trésor.
Je pense qu'ils étaient à l'école ensemble.
En 1952, il y a le petit monde de Don Camillo qui est fait par Julien Duvivier quand même. 1953, le retour de Don Camillo, toujours de Duvivier. 1955, la grande bagarre de Don Camillo de Carmine Gallone. 1961, Don Camillo Monseigneur, toujours de Carmine Gallone. 1965, Don Camillo en Russie de Luigi Comincini. Et en 1971, il y avait le fameux film Don Camillo et les contestataires, qui a interrompu par... Oui.
Ça ne me dit rien, celui-là.
Eh bien, c'est tout à fait normal, je pense, que pour nous autres Français, puisqu'il a été interrompu par la maladie et puis la mort de Fernandel. Donc, le tournage avait été commencé par Christian Jack et qui a été repris par Mario Comerini avec Gastone Mancini, qui a pris le rôle de Don Camillo, et Lionel Santander, qui a remplacé Gino Cervi dans le rôle de Pépone.
Parce qu'il était mort aussi, lui ?
Non, mais je pense que, après, moi, je sais pas
si... l'un sans l'autre, le duo est cassé.
Voilà,
quoi.
C'est ça, le duo est cassé, je pense qu'ils ont refait. Alors, effectivement, nous autres Français, on se souvient surtout de ces deux-là. Moi, je m'en rappelle surtout du baptême du fils de Pépone, qui voulait l'appeler Lénine.
C'est des grands enfants qui se battent dans un monde adulte, ça fait ça un peu... Bon, c'est ça, tu sais, quand dans Camillo, il lui fait plein de misère, là.
Voilà, c'est ça, il y a toujours des vengeances. Oui, puis tu sais, à un moment, il va commencer à vouloir le tabasser, et puis t'as le Christ qui dit, non, mais attends, Don Camillo, mais tu peux pas faire ça, il faut tendre la joue droite et tout. Et tu dis, non, mais attends, je peux pas, quoi, il m'a fait des trucs, faut se venger. Et tu vois, c'est vrai qu'il y avait ce côté très gentil, parce que même si quelque part, il y avait ce côté où Pépone, il pouvait faire du mal à Don Camillo, mais si quelqu'un l'autre le faisait, il s'énervait et il s'emportait vite, quoi. Donc, voilà. Après... Quand on arrive dans les couleurs, je pense que tu t'en souviendras un peu, c'est le duo Jean Marais-Louis de Funès dans les Fantomas. Voilà. Alors, ce personnage qui est créé en 1910-1911 par Pierre Souvestre et Marcel Alain. Parce qu'il y a eu un film, je crois, en 1913.
Oui.
Mais ceux qui nous intéressent, c'est surtout ceux de 64, André Hunebel, avec Louis de Funès, forcément, Jean Marais, et puis Mylène de Mongeau.
Oui.
Parce que quand même, hein. Et alors, il y a le Fantomas se déchaîne en 65, le Fantomas contre Scotland Yard.
Oui.
Et qui sont tous les trois d'André Hunebel. Et j'ai appris qu'il y avait eu projet en 2012 d'un Fantomas 3D.
Ah bon ?
Oui, tout à fait, qui serait de Christophe Gans avec Jean Reno. Ensuite... Alors moi j'ai pas fait chronologique, hein. J'ai fait comme
oui.
ça, donc voilà.
Ce qui te venait à l'esprit mon petit.
Oui ça aussi. Donc moi un duo qui aussi moi me rappelle mon enfance et
Dieu sait que c'est loin.
Il y a aucune relation de cause à effet, c'est le duo Michel Serrault et Ugo Tognazzi. Alors en sachant que c'est vrai que La Cage aux Folles...
C'est une pièce de théâtre avant tout.
Voilà, c'est ça.
Avec Jean Poiré
et Michel Serrault. Voilà. Donc voilà. Mais hélas, on n'a
jamais... Pas télévisé, ça c'est bien dommage.
Voilà, il y a eu juste quelques images qui ont été faites pour Antenne 2, pour le journal.
Je prends pas, c'est l'époque à Jacqueline Maillan et tout ça, les stars du théâtre, là, et eux c'était télévisé et pas...
Bah, c'était, non, oui, mais c'était dans la logique au petit théâtre ce soir. C'est-à-dire qu'on amenait le théâtre, comment ça s'appelle, à la télévision.
Voilà.
Donc, La Cage aux Folles d'Edouard Molinaro. Alors, moi, ce qui est très marrant, c'est quand je vois les duos, il y a beaucoup de réalisateurs qui reviennent. Hein. C'est marrant, il y a donc des spécialistes.
Oui.
Hein. Il y en a surtout un d'ailleurs, mais on y reviendra un peu plus tard. Le premier film est en 1978. Et donc, c'est en fait l'histoire de Renato, donc Ugo Tognazzi, qui reçoit la visite de son fils.
Et qui veut se Laurent, de son
voilà,
prénom.
Voilà. Et qui veut se marier. Et voilà. Et donc, il y a Albin, son compagnon, Michel Serrault, dit Zaza Napoli.
Mm-hmm.
Voilà,
la grande Zaza Napoli.
La grande Zaza Napoli, c'est en jeu de scène. Et voilà. Et donc, Renato.
Capricieuse à souhait.
Oui, c'est ça. Ben ouais, mais tu vois, on retombe toujours dans le clown blanc et l'Auguste.
Oui.
C'est-à-dire que voilà, il y en a un qui fruste, c'est Michel Serrault et l'Auguste. Clown blanc pondéré, c'est donc Ugo Tognazzi. Michel Galabru, qui est le père de la fiancée,
oui.
Et ultra conservateur. Et
oui.
Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a ce côté-là où Renato, lui, veut protéger son fils et dit bon, ben, on va essayer de trouver, faire une fausse femme. Et puis finalement, ben, ce sera Albin qui se déguisera et qui voudra vraiment être une femme. Alors il y a le 2, le Cage aux Folles 2 en 1981, d'Edouard aussi du Molinaro. Et là, c'est une histoire d'espionnage. Là, je veux dire, les personnages sont plus que décors à leur propre histoire.
Oui, là, après, ils sont un peu partis, comment dire, un peu loin.
Moi, je dirais surtout en sucette. Mais bon, en même temps, Cage aux Folles, c'est tout à fait normal. Et donc, La Cage aux Folles 3 en 1985 de Georges Lautner. Donc là, c'est un héritage. Tu vois, il y a une histoire d'héritage en Écosse. Mais hélas, il faut que l'héritier soit marié. Et donc, Albin va devoir, hélas, se marier. Mais se mariera-t-il ? Alors ça, c'est au spectateur de le voir. Voilà.
C'était quand même dans le 3, les mêmes acteurs.
Oui, c'était toujours les mêmes acteurs sur les 3. Mais moi, je trouve que ils ont quand même réussi. Puis je pense que ça tenait surtout quelque part au personnage de Michel Serrault. Il a toujours eu des rôles assez d'équerre. Et je trouve que, ouais, effectivement, là, il a quand même réussi un sacré personnage de Zaza Napoli. Et sans parler du black avec son mini-shirt, pour ceux qui connaissent le film.
Oui. On peut juste souligner qu'il y a eu une redite de la pièce de théâtre avec Didier Bourdon et Christian Clavier.
Oui, bah voilà, mais ça
qui est... Je suis mitigé, on va dire.
Ah ouais, non, mais ben, là, on en reparlera pour un autre réalisateur qui lui aussi s'est vu refaire son film, version moderne, et qui est aussi tombé à l'eau. Moi, je pense qu'on retombe un peu dans la rengaine du cinéma moderne.
Non, mais je trouve que c'est le choix des qui n'allait pas, quoi.
Oui, non.
Des acteurs en eux-mêmes.
Oui, mais je pense que dans l'inconscient collectif, quand tu as fait ça et que ça a tellement bien marché, il est
difficile. Non, mais c'est surtout qu'il y a des acteurs qui ont marqué les rôles, quoi.
Oui, mais voilà, c'est ça. Mais je veux
après,
dire.
Pour mettre une empreinte par-dessus ça, c'est
voilà,
dur.
Voilà, mais comme dans le cadre de L'Emmerdeur, voilà, de Molinaro en 1973.
Avec Brel et Ventura.
Et qui sera le fameux premier François Pignon, parce que là aussi, on va en parler du François Pignon et du François Perrin.
Oui.
Pour l'inconscient collectif, vous m'excuserez, mais que ce soit Brel Carrel ou que ce soit Lino, voilà, c'est, ils ont imposé. Quand tu fais
Patrick Timsit, ils sont charismatiques. Les
oui, mais je veux dire, voilà. C'est... Et puis, je pense qu'il y avait peut-être un truc nouveau dans les années 70-60 à faire. Et maintenant, je veux dire, c'est pas rondondant, mais je veux dire, on connaît quoi. Je veux dire, c'est du refait quoi, et du refait quoi.
C'est à croire qu'il y a plus d'argent pour créer quoi.
C'est-à-dire qu'on fait les vieux trucs, quoi. Mais de toute façon, le cinéma américain, on est café, hein. Tu sais,
Oui, et puis là, ils vont tourner leur suite, donc...
Ouais, mais voilà. Mais je veux dire...
Là, ils sont tranquilles pendant quelques années.
Dans les fameux duos, on en avait parlé avec Hugo pour savoir si on le mettait. L'arme fatale avec Mel Gibson et Danny Glover, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas hyper comique. Bon, en même
mais
temps...
Mais il y a le duo, oui.
Il y a le duo. Ils ont fait un, le 2, le 3, le 4. Mais je veux dire, le premier marchait bien, le 4... Bon, bah, vous m'excuserez, bon, c'est du ressucé. Je voulais parler aussi d'un duo qui a été quand même connu, pour leur premier, tant mieux, pour leur troisième, tant pis. C'est Christian Clavier et Jean Reno dans Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiret, en 1993, qui nous conte l'histoire de Jacouille la Fripouille.
C'était leur troisième ensemble, je
crois. Tout à fait,
parce que le premier, c'était Opération Corned Beef.
Et de Jean Reno, Godefroy Armory de Malfaite, comte de Montmirail d'Apremont et de Papincourt, dont l'action a lieu en 1123 sous Louis VI dit de Gros, et avec Valérie Lemercier, qui jouait comme Dame Frénigonde de Pouille.
Comme il a sauvé, je crois, ce fameux... Louis le Gros,
voilà.
Donc il se voit offrir la Dame Frénégonde.
Voilà, Dame Frénégonde, mais malencontreusement, sur un enchantement à cause d'une sorcière, il tue son beau-père, enfin son futur beau-père, et pour
quelle
réparer...
Quelle partie de chasse.
Et voilà, et oui, bah, parce qu'il a vu que sous les traits d'un ours. Et là, grâce à un enchanteur, il
fait un grand bond.
Il fait un grand bond.
En 1992.
Voilà, c'est ça, oui. Et donc...
Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne.
T'as pas vu ton pif, hein?
Ok.
Voilà, avec Jacques-Henri Jacquard.
Lui aussi, ça lui est resté, je pense, voilà. Clavier, ça.
Oui, ça lui est resté. Mmh. Ben moi, tu vois, parce que autant le premier avec Valérie Lemercier, qui avec votre Paula, était super, était bien. Il y avait des bonnes découvertes, vraiment.
Non, mais
sujet important.
Elle faisait aristocratie.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis bon, le côté comment ça s'appelle, pincé de l'ancêtre de Jacouille.
Oui.
Voilà. Et puis alors dans le deuxième, Les Couloirs du Temps, où alors là les visiteurs reviennent, toujours de Jean-Marie Poiret. Et là, donc le passage de Muriel Robin par rapport à Valérie Lemercier, bah moi je
c'est choquant.
Ça, moi je trouve ça choquant. Et le pire était encore à venir.
Eh oui,
parce que
pognon is pognon.
Les Visiteurs en Amérique de Jean-Marie Poiret, toujours. En fait, c'est un remake du premier.
Ah, il en fait version américaine.
Oui, parce qu'en fait, l'histoire c'est de Thibaut de Malfaite, s'apprête à épouser la princesse britannique Roseline, un prétendant jaloux met une potion dans le breuvage de Thibaut et Thibaut tue Roseline. Et donc, il trouve le fameux enchanteur. Et qu'il envoie dans le futur. Voilà. Et son escuyer n'est autre qu'André Lepatou à Chicago au 21e siècle. Et là, ils rencontrent leur ancêtre. Alors, moi, ce que j'adore quand même, parce que ce soit dans le premier, dans le troisième, c'est que les ancêtres ne changent pas. C'est-à-dire que toi, t'as la même tronche que ton ancêtre. Hein. Il n'y a pas de change. Parce que logiquement, chez moi, techniquement, t'as un ancêtre qui rencontre un autre et qui forme un troisième. T'as les gènes de l'un et les gènes de l'autre. Ah bah non, là dans la famille ils sont ressemblants. Donc voilà. Et là il rencontre Christina Applegate et qui était la fameuse fille délurée de la série Belle mariée, deux enfants, la fameuse Kelly Bundy.
D'accord.
Et oui. Alors Christian Clavier continue, mais cette fois-ci avec Depardieu.
Oui.
Il fera deux films, Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi.
Troisième sort bientôt.
Voilà, c'est ça. Même le.
Mais pas avec les mêmes acteurs.
Voilà, c'est ça. Et donc, le méchant de cette histoire n'est autre que Roberto Benigni, Tullius Detritus. À l'époque, Panomanix était joué par Claude Pieplu, et depuis, après, ce sera Claude
Panoramix,
Rich.
Tu veux dire.
Hein?
Panoramix.
Oui, j'ai fait Panomanix. Alors. À la numéro 10. Et Jules César, à l'époque, était joué par Godfrey John. Pas un acteur très connu. Il a un physique, pourtant, mais pas très connu.
C'est des choses qui arrivent.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, le plus connu, sans doute, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre 2, et avec Alain Chabat dans le rôle de Jules César. Cléopâtre n'est autre que Monica Bellucci et le fameux Jamel Debbouze qui joue numéro 10. Et Panomanix, c'est donc Lulu Aldrich. Édouard Baer joue Otis, le fameux Scribd.
À noter, dans les débuts, le premier, là, il y avait l'apparition de Laetitia Casta, il me semble.
Oui, tout à fait, qui jouait la femme de Sim, H-Canonix, Falbala. Et effectivement, on lançait un peu cette page aussi, puisqu'effectivement, bientôt sortira le Astérix et Obélix.
Au service de sa majesté.
Avec Édouard Baer qui reprendra le rôle de Christian Clavier, comme quoi j'ai
ça sera peut-être du... mieux là.
Ouais, moi j'espère. Et puis Jules César, Fabrice Lucchini.
Ah, j'espère qu'il va nous partir dans des litanies dont il a le secret.
Oui, ça j'adore. Moi j'adore Fabrice Lucchini, donc voilà.
Et qui c'est qui fait Obélix?
Ah bah c'est toujours Depardieu.
C'est notre... Ah oui, GG encore.
Toujours GG, mais c'est des histoires de contrat.
Est-ce qu'il a été obligé de boire du lait là? Donc ouais. Pas être bien le GG, je comprends qu'il pisse dans l'avion après.
Tout à fait, tu m'étonnes. D'ailleurs, il y a une petite séquence sur Internet qui rend un hommage à cette fameuse... Oui. Voilà.
Pipi room.
Cette pipi room en vol. Ensuite, on sautera...
Non, mais ça n'engage que toi, ça. Hein.
Non, mais on sautera ni sur Colvisy, ni ailleurs, avec la fameuse Légion.
Oui.
Voilà, avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte.
Ah, nos amis les ripoux.
Voilà, nos amis les ripoux. Alors, qu'est-ce qu'un ripoux?
C'est un pourri à l'envers, c'est du verlan, monsieur.
Voilà, c'est en fait des flics qui sont plus vraiment honnêtes.
Non, c'est des flics qui touchent des pots de vin.
Ouais.
Comme ça, ils assurent la sécurité, voilà, la tranquillité. Ça ne se résume pas qu'avec de l'argent. Hein. Parce que t'as un moment dans le boucher, t'as vu, ils lui donnent un gigot.
Voilà, c'est ça.
Puisque... C'est des petits cadeaux, on va dire.
Voilà, c'est ça, c'est des petits cadeaux. Parce
pour
que...
fermer les yeux sur certains trafics. Donc, c'est en 1984, ce film est sorti, me semble-t-il,
oui, tout à fait,
de Claude Zidi.
Voilà.
Que c'est René Boiron, inspecteur de police à Paris, mène une vie tranquille entre une ex-prostituée Simone. Et son travail qui consiste surtout à encaisser de l'argent illégal lui permettant de vivre sa passion pour les courses de chevaux.
Ah oui.
Donc sa vie va changer avec l'arrivée de l'inspecteur Lebuche. Qui sort lui de l'école de police.
Ouais, Thierry Lhermitte. Bah, là je dirais que c'est un petit peu là, y a pas la guerre des étoiles, c'est un peu Maître Yoda et Luc. Effectivement, il y a ce côté-là du vieux aguerri,
oui,
qui sait comment tourne l'affaire, qui lui sait que concrètement bah, la vie c'est pas comme comme à l'école et que Thierry Lhermitte sera le padawan et il apprendra et qu'à la fin effectivement
mais il sera autant que lui sinon plus.
Alors dans le deuxième Ripou
contre Ripou,
voilà, qui est aussi de Claude Zidi
avec Guy Marchand,
voilà, semble. C'est ça, en fait c'est ça, lieu 5 ans plus tard après le film. Donc Thierry Lhermitte veut devenir commissaire mais il tombe dans un piège et les deux sont poussés en prison. Et en fait, remplacé par ce qu'on considère comme des flics exemplaires, donc le fameux Guy Marchand qui joue l'inspecteur Guy Brisson et Jean-Pierre Castaldi, l'inspecteur Jean-Pierre Portal. Donc,
quelle carrière!
Vous remarquez que les comédiens portent le même prénom que leur...
Oui.
Que leur... Je sais pas, pas bon. Voilà. Et en fait, finalement, ce nouveau duo sera pire que le précédent et que tout le monde réclamera le retour
des héros
de René et de François. Et dans le 3, toujours de Claude Zidi, en 2003, François est devenu commissaire à l'IGS, donc l'inspection générale des services.
Oui.
Voilà. Et il va aider son ami René qui, lui, est dans des sérieuses... Merde, on peut le dire. Hein.
Oui.
Voilà. Et sous ses ordres, il y a un certain Laurent Deutsch, voilà, qui c'est un jeune stagiaire qui va.
Monsieur Histoire de Paris.
Voilà, c'est ça, entre autres. Voilà. Donc voilà, il y avait tout ce côté-là. Alors après, c'est vrai que ça, on tombe dans les années 80. Moi, je voudrais aussi revenir un petit peu en arrière, puisqu'on a quand même oublié les grands. Parce que c'est vrai qu'on a attaqué, oui, vite Derchef, les Christian Clavier, les Philippe Noiret.
Et notre qui sont célèbre Le Corneau.
Voilà, c'est ça. Louis de Funès et Bourville. Le rusé et malhonnête Louis de Funès. Le gentil et innocent Bourville.
Voire naïf.
Voilà, et voire naïf dans ce fameux Corneau de 1965 de Gérard Houry, Antoine Maréchal. Bourville se retrouve malgré lui et sans le savoir à convoyer une fameuse Cadillac qui est pleine d'or, d'héroïne et de diamants que lui a confié Léopold Sorian, chef d'entreprise malhonnête. C'est ce fameuse rencontre,
oui,
de la deux chevaux.
La deux chevaux.
Ah
et
bah
de...
forcément, ouais, maintenant elle va me marcher.
Tout le monde se souvient de cette fameuse,
oui,
même dans une pub, je crois que,
ouais,
ça a été,
voilà,
repris encore pour une assurance.
Voilà,
on ne dira pas le nom.
Voilà, et mais parce que moi, c'est vrai que c'est à ce côté-là où, effectivement, le personnage de Louis de Funès, qui a toujours ce côté râleur, mauvais perdant, et tout, qui gesticule, et de ce côté, bah, évidemment, de ce qu'on a connu toujours de Bourville, le côté, le dadé, le nier du village, quoi. Et effectivement, mais qui, là, a quand même un petit peu son caractère, parce que des fois, il s'emporte quand même. Donc voilà, et puis, il y avait La Grande Vadrouille aussi. Hein.
Oui.
Toujours de Gérard Rouy,
1966.
Voilà, 1966. Ah, c'est très curieux, hein. Des réalisateurs qui vont de pair avec certains comédiens. Hein.
Oui, bah oui, oui. Mais c'était les anciens qui étaient comme ça, je pense. Non, ils ont leurs acteurs fétiches.
Il y a certains réalisateurs modernes qui le font aussi. Hein.
Oui, mais plus côté américain, je trouve. Côté français, je trouve qu'on retrouve moins ça maintenant. Non, dans le nouveau cinéma.
Moi, je dirais qu'on a quand même pas mal de réalisateurs comiques et qui utilisent souvent les mêmes. Comédien. Donc voilà, c'est surtout ça, parce qu'on a une.
Parce qu'on prend Jean Reno, Gérard Depardieu, ils en ont tourné quand même des séries.
Hein. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, et puis même Clavier, parce qu'il en a fait quelques-uns. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué, en faisant mes recherches, c'est que quand même, tu as, je dirais, même pas une dizaine de réalisateurs pour tous ces films. Quoi. Mm. Que ce soit les Weber, les Poirier, les Zidi, les Houry, souvent les mêmes, hein. Donc forcément.
Donc en 1942, pendant l'occupation de la France par l'Allemagne, un avion britannique est abattu par les Allemands. Réfugiés dans Paris, deux aviateurs cachés par Stanislas Lefort, notre célèbre homme d'orchestre, et Augustin Bouvet, avec la célèbre scène où l'officier SS qui prend le pot de peinture au début.
Ouais, là, parce qu'il est peintre en bâtiment.
Oui, qui vont devoir donc les diriger vers la zone libre pour être rapatriés au Royaume-Uni.
Et là, tu as la fameuse poésie, enfin, qu'on voit dans tout plein de films, puisque je veux dire que ce soit Christian Clavier, Jean Reno, t'as le Soufif, l'être noble. Et là, effectivement, t'as Stanislas, Louis de Funès, qui est lui un chef d'orchestre, l'intellectuel. Et d'un autre côté, t'as Bourville, le peintre en bâtiment, le manuel, le mec naïf et un peu fleur bleue aussi. Alors que l'autre, il est faux, opportuniste. Tu vois, t'as toujours ce côté duo qu'on voit dans les films comiques. Et puis, je pensais aussi à un troisième film que Louis de Funès et Bourville ont fait ensemble. Par contre, là, il peut être un peu moins comique, mais qui toutefois a quand même ses scènes d'anthologie. Ah. C'est La Traversée de Paris.
Oui.
De Claude Autant Larame.
Oui, même si Louis de Funès a un tout petit rôle dedans.
Oui, mais voilà, non, mais je, voilà, ils ont travaillé quand même sur le même film. Après, moi, on va tomber dans les longs. C'est Pierre Richard et Depardieu.
Oui.
Donc alors, voilà, La Chèvre. En 1981, de Francis
Weber.
Donc la fille d'un PDG se fait enlever pendant ses vacances au Mexique. Et pour la retrouver, son père utilise un de ses employés aussi maladroit que sa fille, le fameux François Perrin.
Voilà.
Voilà, important. Hein. Dans l'espoir qu'il lui arrive les mêmes malheurs que sa fille et qu'à la fin, il la retrouve. Donc voilà, et le détective privé Campana, là aussi Campana, et sceptique l'accompagne. Alors là aussi, c'est une histoire de déboire, parce que t'as le côté Pierre Richard, qui est un comptable malchanceux, maladroit, à côté de ce Campana, qui est lui fort et dominateur, et qui, même, je crois, si je me rappelle bien, se fait quand même tabasser à cause de lui. Donc voilà, quoi.
La célèbre scène dans la prison.
Voilà, c'est ça. Et tu vois, et le mec, il est complètement désabusé. Et on retrouve le duo dans Les Compères.
Je trouve que ça n'est pas trop mal vieilli quand ça se regarde encore. Ça.
Ouais, ah non, mais celui-là, même les autres, ouais, c'est vrai qu'il y a du passé. Donc dans Les Compères en 1983.
De Weber aussi.
De Weber aussi.
Donc Tristan, un jeune homme de 17 ans, fait une fugue avec sa petite amie au désespoir de sa mère, qui est joué par Annie Dupiré. Pour le retrouver, celle-ci envoie deux de ses anciens amants en leur faisant croire que l'un d'entre eux est peut-être le père. Qui d'ailleurs, on s'aperçoit dans une scène du film d'ailleurs qu'il y en a un troisième.
qui comme est toujours.
Oui. Donc voilà, Monsieur Gwen, Les Compères. Donc là aussi, c'est à choisir entre les deux. Moi, je préfère La Chèvre quand même. C'est quand même plus humoristique parce que c'est quand même plus policier. Là.
Là, on a le Pierre Richard qui joue François Pignon,
oui,
qui est éducateur, timide et dépressif. Depardieu, Jean Lucas, journaliste, brut et séducteur. Voilà, on rentre. Alors moi, c'est vrai que non, moi, je dirais celui que je préfère, c'est Les Fugitifs.
Oui.
Voilà, de Francis Weber aussi, en 1986. Donc Jean Lucas, tiens, Jean Lucas. Depardieu, ancien repris de justice, est libéré après 5 ans de prison. Il rentre dans une banque et là, François Pignon, toujours François Bignon, Pierre Richard, peu expérimenté, tente un braquage complètement loupé, là avec le fameux combat sur la tête qui se déchire. La banque est cernée par le commissaire du Roc, Maurice Barrier, qui était déjà sur le dos de ce fameux Jean Lucas.
Oui.
Et donc, obligé de fuir, Pignon prend hélas Lucas en otage. Voilà, et après péripétie, Lucas hélas prend une balle dans la jambe par Pignon lui-même. Et il est soigné par un ami vétérinaire. Lucas découvre la fille de François, Jeanne, qui est muette depuis la mort de sa mère. Et François étant chômeur et sans ressources, peut perdre la garde de sa fille. Donc voilà, il y a une histoire derrière. Et ça, celui-là, je l'ai trouvé assez, disons, plus
attachant.
Mais plus attachant, voilà, c'est ça. On arrive, on disait qu'on a déjà un duo qui est bien formé. Donc je pense que Weber a tenté autre chose. Donc voilà. Et puis c'est vrai que là, on va tomber dans...
Dans nos années 2000?
Moi je dirais
90
pas, non, déjà les 80, puisque je te signale, mon cher Hugo, deux duos avec le même comédien dans les deux couples, Michel Blanc et Giraud, dans Viens chez moi, j'habite chez une copine, de Patrice Lecomte, voilà, en 1981. Donc Guy Michel Blanc travaille comme pompiste et son copain Daniel Bernard Giraudot est déménageant dans une petite entreprise. Guy est renvoyé à cause de ses petites arnaques, parce que lui, il adore les petites arnaques, et surtout essaie de séduire ses clients en leur accordant des petits privilèges. Et donc, voilà son logement. Guy demande à Daniel de l'héberger, mais grâce à lui, Daniel perd son emploi et sa douce, et voilà. Donc il y a toute une histoire. Et puis on retrouve Michel Blanc, et cette fois-ci avec Gérard Lanvin, dans
Marche à l'ombre.
Voilà.
Casse-toi deux.
Voilà, comme dirait Renaud. Bah, tu me diras, les deux étaient des chansons de Renaud. Hein.
Oui.
Voilà. Donc Michel Blanc, et c'est d'ailleurs c'est une réalisation de Michel Blanc. Hein.
Oui, oui, oui.
Donc, en 84, donc deux compères à CDF, François.
Film culte aussi. Là.
Oui, baroudeur costaud, mais sensible, et Daniel, donc Michel Blanc. Et, éternel râleur et hypochondrien.
Oui.
Voilà. Sont de retour en France afin de se relancer dans la musique. Ils vivent dans un hôtel miteux et font la manche grâce à la guitare de François. Et François rencontre la jolie Mathilde, qui est Sophie Blaise, danseuse professionnelle, alors que Daniel, lui, ne vit que des amours sans lendemain. Et tout au long du film, les deux amis se disputent souvent, mais ne se sépareront jamais.
Même si la guitare est cassée.
Je voulais aussi parler, parce que c'est vrai qu'après, il y a d'autres petits... Voilà, parce que je voulais justement faire un petit hommage à M. Weber, qu'on parlera pour d'autres duos tout de suite, là, mais surtout par ces histoires de François Pignon, qui est quand même un personnage connu, hein, puisqu'on le voit, ce François Pignon, dans L'Emmerdeur, Les Compères, Les Fugitifs, Le Dîner de Con, Le Placard, avec Daniel Auteuil, dans le rôle, La Doublure, en 2005, avec Gad Elmaleh, et L'Emmerdeur, version moderne, donc avec le fameux Patrick Timsit, et il y a aussi donc ce fameux François Perrin, dans Le Grand Blond, avec une chaussure, de Yves Robert. Donc
chaussure noire. Hein.
Voilà, c'est ça, et Le Retour du Grand Blond, forcément. Le jouet de Weber, qui est joué par Pierre Richard, Georges Lautner, On aura tout vu, en 1976, aussi avec Pierre Richard, Jean-Jacques Hano, Coup de tête.
Ah oui.
Et oui, parce que Patrick Devers s'appelait François Perrin. Et Édouard Molinaro, Cause toujours, Tu m'intéresses. Et cette fois-ci, c'est sous les traits de Jean-Pierre Marielle.
Oui.
Weber, La Chèvre, donc Pierre Richard, et Weber, Le Jaguar, sous les traits de Patrick Bruel, cette fois-ci.
Ah oui.
Oui, avec Jean Reno, tu sais, quand ils vont dans la jungle. Donc voilà, et c'est vrai qu'on retombe un petit peu, et là, je vais m'attaquer un peu plus dans les modernes, parce qu'il y avait donc le fameux Dîner de con. Avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray.
Là aussi, un chef-d'œuvre.
Là, un chef-d'œuvre, franchement, de duo.
Daniel Prévost.
Et Daniel Prévost aussi, oui, voilà. Et puis, il y avait aussi le copain de Thierry Lhermitte.
Ah, allez, mon petit Gwen.
Le mari de Christina Reali.
Allez.
Celui qui ne sera jamais un méchant.
Eh oui.
Voilà, non,
il a les yeux bleus.
Oui, oui.
Il a le regard qui tue. Non, ce n'est pas celui que tu penses,
c'est
la voix.
Non, je trouve.
C'est Francis Huster.
Voilà, Francis Huster. Non, tu ne le verras jamais dans un rôle de méchant, lui. Après, c'est vrai qu'il y a eu la doublure avec Gad Elmaleh et Danny Boone et la célèbre Alice. Tagliottoni, oui.
Non. Taglioni.
Taglioni, oui. Non, mais moi, je pensais ça.
Oui, Tagliatelle, oui.
Voilà,
attends, sors pas de tes pattes, toi, dans Patio.
Voilà, c'est ça, c'était pour faire une petite référence sympathique. Puis, quand on parle de Danny Boone, il y a Bienvenue chez les Chenilles.
Oui, Cadmerade.
Cadmera et film de Danny Maud avec Danny Boone.
Avec sa version italienne à Bienvenuti à... Al Soud, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, les aventuriers de Philippe Abraham, directeur d'une agence de la Poste dans le sud de la France et qui, par mesure disciplinaire, est muté dans le Schnorr.
Ouais. Je sais pas où c'en est la version américaine.
Bah, pour l'instant, j'ai aucune nouvelle. Moi, je sais que Will Smith a acheté les droits. Mais...
Ah, ils ont acheté les droits quand même.
Oui, il a acheté les droits et logiquement, il devait le faire dans le Bronx. Mais bon, après, peut-être qu'il s'est lancé aussi dans d'autres projets. On parle de Cadéo, Cadéo Olivier, qui a tué Pamela Rose, d'Eric Lerico. Donc, une stripteaseuse nommée Pamela Rose est retrouvée dans une chambre d'hôtel
oui.
de Bondsville. Et deux agents du FBI, Richard Bullitt, CAD, et Douglas Ripper, Olivier, sont chargés de l'enquête. Donc, le personnage aussi de Gérard Darmon, Phil Cannon, de Cadéo.
Oui. Oh, oh, oh. Cadéo, c'était voilà, bien trouvé,
Jean,
ça.
Voilà, et Jean-Paul Rouve, qui joue le fameux shérif Doug Marley. Voilà. Et il y avait aussi un petit passage de Alain Chabat en tant que roi de country.
Oui, oui, oui.
Donc voilà. Et donc on a aussi passé parce que Hugo a fait quand même passer aussi cette info parce que il y a le fameux ce qui va sortir qui a retué Pamela Rose, donc un peu le synopsis pour l'instant.
Il sort quand en fait ça ?
Bah, il va,
fin de l'année là non ?
Oui, il devrait guère tarder. Ouais.
Octobre il me semble, j'ai vu.
Mais j'ai pas tous les personnages par contre.
Ah.
Voilà, le shérif de Bondsville appelle Ripper parce que quelqu'un a volé le cercueil de Pamela Rose. Et Ripper pense à reprendre contact avec Bullitt, avec lequel il est en froid à cause d'une histoire de...
Fuego.
Et de femme apparemment. Ah. Donc voilà, et apparemment il y a aussi une histoire d'assassinat de la fameuse présidente des États-Unis. Voilà. Donc, et il y aura la fameuse Fuego.
Fuego.
Voilà. Donc, c'est vrai que c'est tout ça. Et puis, ça me fait penser, en parlant de voiture, il y a aussi un célèbre duo.
La Coccinelle ?
Non. Moi, je pensais plutôt une 406 Peugeot. Mais bon, c'est comme tu veux.
Taxisme.
Voilà, Taxisme avec Daniel Morales sous les traits de Samin Nasseri, Emilien Contant, Kervalec, Frédéric Diffenthal, Lili Bertino, Marion Cotillard,
et
la
oui.
fameuse Petra, Emma Schiolberg et le fameux commissaire Gérard Guibert, Bernard Farry, qu'on voit sous les traits du pirate dans l'émission avec le pacte.
Oui.
Voilà. Et c'est ça, et donc il y a le 1 où voilà, et ben Diffenthal demande
l'aide de
Samin Nasseri contre un gang allemand. Donc ça c'est le premier de Gérard Pires, tous les autres seront de Gérard Krichwitz.
D'accord.
Voilà, donc il y a la fameuse opération Banzai, là, les japonais, le gang des rollers, et en face, le fameux braqueur de banque belge qui est libéré par inadvertance par Frédéric Diffenthal. Donc voilà, ça c'est pas des grands films, mais ça reste quand même un duo comique qui s'est créé grâce au cinéma. Bah, moi je dirais que voilà.
Jour de pluie, ça passe.
Oui, parce qu'après, effectivement, on a quand même les duos de comiques qui existent. Parce que moi, c'est quand même super curieux.
Oui, parce que Cadéo était quand même.
Oui, voilà, c'est ça. Mais. Bah, c'est toute l'équipe, moi je dirais, de Canal+, qui s'en fait, parce qu'il y a Omar et Fred. Et là, bizarrement, Omar et Fred n'ont pas fait de film ensemble. Ils ont fait des films à chacun séparés, hein, que ce soit Dépression et des potes pour Fred, ou que ce soit le fameux
Intouchable.
Là aussi, c'est un duo comique, hein,
oui.
François Cluzet, là aussi. Et puis, il y a nos fameux Eric et Ramsey, hein, voilà, le duo qui s'est rencontré à Hippocagne. Et oui, messieurs, dames, à Hippocagne, dans les fameuses classes préparatoires littéraires, ils décident d'arrêter leurs études et décident de se lancer dans une carrière d'artiste. Donc voilà. Il participe au sitcom H, diffusé sur Canal+, où ils incarnent un infirmier et un brancardier aux côtés de Jamel Debbouze, qui tient le rôle de standardiste.
Ils ont commencé, je crois, sur
M6, ouais, c'est ça.
Qui faisait les jeux de mots.
Voilà, oui, les fameux mots.
Oui.
Et en 2001, le duo est à l'affiche de la tour Montparnasse, réalisée par Charles Nemes, et pour lequel ils participent à l'écriture. Le film dans lequel ils incarnent deux crétins, laveurs de carreaux, compte une prise d'otage du conseil d'administration de l'entreprise Lanceval. Et c'est une parodie finalement du fameux Piège de cristal avec Bruce Willis. Le film met en contraste
et la tour infernale
aussi. Oui. Le film met en contraste les gags crétinisants du duo avec la froideur de la violence des preneurs d'otages. Là aussi, superbe interprétation de notre Marina Foïs.
Oui.
Ou foi, c'est comme
vous voulez. Ça dépend de quel pays vous êtes.
Voilà, voilà. Et certaines scènes parodient des moments, la bravoure des films d'action connus tels que Le Jeu de la Mort ou Matrix. En décembre 2004, les Dalton.
Voilà.
Donc Eric joue Joe et Ramsey joue Avrel. Et là, spécial honneur Eric est chevelu. 2004, Double Zéro. Alors là, c'est un remake de James Bond.
Voilà.
Il a Étienne Tête à Edouard Baer.
Après, il y a la police d'État.
Voilà. Il y a 2007, Steak de Quentin Dupieux.
Ah oui.
Alors, par contre, c'est un échec public car, car il était présenté comme une comédie populaire alors qu'il est plutôt réservé à un public plutôt averti. En 2008, il y a Seul Tout. C'est leur premier film en tant que réalisateur.
Ils se retrouvent tout seuls dans la
voilà,
ville.
C'est ça. Mmh. Bah, c'est-à-dire que Eric court après Ramzy et en fait, ils se retrouvent tout seuls. Alors Eric, lui, par contre, n'est pas trop d'accord. Ramzy, lui, il adore ça, il kiffe sa mère. Il peut rouler en Formule 1 sur les Champs-Élysées. Mmh. C'est trop la life pour lui. En 2011, effectivement, comme tu dis, le Halal Police d'État de Rachid Dibou. Puis on rappellera que Eric réalise la série.
Il y a Josiane Balasco dans ce film. Ah, tu l'as pas vu, non?
Bah, disons que moi, moi j'en parle, mais c'est vrai que moi, Eric et Ramzy, moi ça va très bien pour leurs mots en 5 minutes. Tout un film, je trouve ça un peu long.
C'est surtout que tu retrouves un peu les mêmes mimiques qu'ils font dans leur...
Voilà, c'est ça.
Au début de leur carrière, c'est un peu dommage. Quoi, des
fois. Voilà. Bah, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est trop long. Une heure et demie pour eux, c'est trop long. Ou alors, il faudrait qu'ils trouvent un réalisateur qui arrive à leur faire...
À les cadrer, comme on dit.
Voilà, c'est ça. C'est pas faux. Tout à fait. Et je voulais aussi parler, puisqu'on a parlé au début de l'émission, de Laurel Hardy, qui avait fait beaucoup de films. Et je pense à, peut-être que tu en as oublié, ceux qui en ont fait beaucoup, beaucoup aussi, et qui sont connus surtout pour avoir fait des claques.
Des claques ?
Oui, des claques. Le fameux BAM ! Terence Hill et Bud Spencer. Voilà. Puisque leur premier film commence en 1967, Dieu pardonne, moi pas, parce que alors là, je ne dis pas les titres. Hein,
oui.
1969, Trinita va tout casser. 1972, Delustique embordé. 1971, on l'appelle Trinita. 1971, on continue à l'appeler Trinita. En 1972, maintenant, on l'appelle Plata.
Oui.
1974, attention, on va se fâcher. 1974, les deux missionnaires. 76, les deux super flics. 78, père et impair. Et alors, attention, 1979, cul et chemise. Fallait le trouver.
Et voilà.
1981, salut l'ami, adieu le trésor. De mieux en mieux. 83, quand il faut y aller.
Faut y aller.
Eh oui. 1984, attention les dégâts. En 1985, les super flics de Miami. Et en 94, petit papa baston. Donc voilà. Alors moi, je dirais que ça, c'est des films pour les gamins de 10 ans. C'est trop marrant parce qu'effectivement, les personnages sont des caricatures. Hein.
Oui, je te mets des grandes gifles.
Voilà, c'est ça. Et puis rien que le son de la gifle, tu dis, c'est pas possible. Et puis il y avait ce côté-là où effectivement, il y avait ce jeu de Terence Hill de prendre le flingue dans la power revolver du type et de lui foutre une claque.
Comme ça, c'est dans Mon nom et personne qui
le
fait.
Oui, non, mais ça, il y en a tout plein aussi. Voilà, ça a été fait dans le. Oui, parce que ça, c'est le grand film de Terence Hill.
Je crois qu'il en a fait qu'un d'ailleurs qui est grand.
Mais effectivement, mais ça reste quand même, voilà, ils ont quand même une filmographie assez fournie quand même, les deux quoi. Donc c'est vrai que pour moi c'était quand même important de le rappeler, même si je dirais que je ne suis pas un aficionado, je ne suis plus un aficionado de leur travail, parce que je trouve ça effectivement, comme Eric Aramzi, un peu rondondant. Au bout d'un certain moment, on a tendance.
Surtout si tu fais une après-midi avec eux. De filmographie.
On voulait aussi parler un petit peu de Joe Belushi et de Dan Aykroyd, les fameux Blue Brothers, quand même.
Oui.
Parce que c'était quand même pas n'importe qui, ces braves petits messieurs. Effectivement, il y a eu, hélas, qu'un seul film. Parce que bon, voilà,
ça s'appelle Les Blues Brothers.
Voilà, c'est ça. Parce que John Belushi, qui a été propulsé au sommet de la popularité par le spectacle télévisé Saturday Night Live et son prolongement cinématographique The Blue Brothers de John Landis en 1980. John Belushi n'a guère eu le temps, hélas, de sortir de la caricature grossière et provocante qu'il s'était dessinée. Il avait déjà tenu un rôle excessif et mémorable, le pilote déjanté dans 1980. Ah oui, c'était lui de Steven Spielberg. Et celui d'une brute d'un acabit voisin dans le western En route vers le sud de Nicholson en 1978. Sa mort brutale d'une overdose. Et tiens, il a en quelque sorte mythifié. Mais il faut bien reconnaître que sa filmographie n'est guère exaltante. Son frère, le comédien James Belushi, qui jusque-là s'était tenu dans son ombre, s'affirma alors comme un jeune premier, léger et parfois dramatique. Donc c'est vrai que moi, ce film-là...
C'est quand même connu pour la musique. Quoi.
Surtout la musique, mais je veux dire, ça fait aussi partie de ce film-là. Il y a eu un Blues Brothers 2000. par contre, moi que je trouve un petit peu bateau. Voilà.
Un petit peu léger.
Moi, oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est du ressucé, hein, comme dirait.
Du quoi ?
Du ressucé. Et puis, je voulais aussi parler parce que de Will Smith et de Martin Lawrence.
Oui, dans
Bad Boys et Bad Boy 1, quand même. C'est voilà, puisque effectivement.
Bad Boys.
Voilà, moi, ça me fait penser à Mel Gibson et Danny Glover parce que effectivement, oui. Je veux dire, c'est surtout leur relation entre les deux. Qui sert de tenant au film, l'enquête, que ce soit contre Chuck Icario ou autre, n'est que le prolongé de l'histoire. Quoi.
Oui, là aussi, au bout d'un moment, les dialogues, c'est pénible. Ouais. Est-ce que tu as un nouveau duo comique ?
Oui, parce que c'est deux grands. Non, mais je te fais hyper rapide. C'est surtout parce que c'est deux grands, c'est Louis de Funès et Coluche dans L'aile ou la cuisse.
Ah oui,
voilà.
T'as l'impression que c'est le passage d'un témoin.
Voilà, c'est ça, parce qu'effectivement t'as Louis Funès qui arrive plutôt vers sa vie, enfin du moins sa carrière.
Non, et il Coluche, était déjà malade,
qui,
oui.
Voilà, c'est ça, et Coluche qui lui est en plein essor. En plus, il joue le rôle du père et du fils.
Ouais.
Donc voilà, que ce fameux Charles Duchemin qui est directeur, académicien et qui va prendre sa retraite
dès l'apparition,
dès l'apparition de son guide et son fils Gérard qui doit lui succéder mais qui anime en cachette une petite troupe de cirque. D'ailleurs, je me rappelle de la scène où il découvre et que là il y a trop la honte le Coluche devant son père et je trouve qu'elle est magnifique cette scène.
Quand il prend la tarte.
Voilà. Et pour une émission de TV, Duchemin doit affronter le fameux Jack Tricatel, PDG d'une chaîne d'établissement de nourriture industrielle.
La salade qui se fait gonfler tout
ouais,
seul.
Ouais, c'est ça,
le poulet. Tout, ouais, voilà, ouais.
Mais c'est vrai que voilà, moi je trouvais que c'était une belle passation et que ça méritait qu'on le nomme aujourd'hui. Quoi.
D'accord. Et est-ce que tu... Comme on en a parlé l'autre fois là, dans l'émission Direct Live, mardi, donc on reste un peu maintenant sur notre fin, quoi, au niveau des comédies hilarantes.
Oui, tout à fait. Eh ben, moi, je dirais que c'est peut-être un problème, c'est-à-dire qu'on fait d'abord des films pour qu'ils réussissent commercialement avant de faire des films comiques. C'est-à-dire que quand tu vois des films comme on va nous faire Olivier Dahan, les fameux seigneurs, là, donc on prend tous les grands comiques, les Gad Elmaleh,
puis on touche le monde du football, donc on est sur la recette.
Oui, non, mais je veux dire, c'est une histoire classique. Hein. Je veux dire, tu prends des vieux de la vieille qui ont réussi, qui ont touché la gloire, qui sont devenus has-been et qui, dans une petite équipe, forcément, c'est une petite équipe. Je veux dire, les mecs qui vont rencontrer en face, c'est pas l'AC Milan, c'est pas le FC Barcelone.
Non, c'est Marseille, monsieur.
C'est
Marseille, monsieur.
Oui, mais Marseille, c'est une petite équipe.
Marseille, monsieur.
Non.
Ils sont premiers du championnat.
Non,
tu te calmes.
Oui.
Tu ranges ton maillot du PSG, s'il te plaît.
Moi, je dis pas. On a eu quand même.
On reste sur notre fin.
On a eu quand même quelques belles surprises.
Oui, Dépression et des potes, notamment.
Voilà. Moi, je vais pas jeter la pierre parce que je sais qu'ici, je vais me faire traiter de.
Tu n'as pas jeté de pierre de toute
débile.
Façon.
C'est-à-dire que quand même, t'as des films comme Bienvenue chez les Ch'tis qui ont quand même superment bien marché. Après, rien à déclarer. Moi, je trouvais que ça a été un peu une redite. Bon,
il y a quelques bonnes scènes, on va dire.
On a repris le. Oui, non, mais je veux dire, c'est un film comique.
Oui.
Les gens ont cru voir Titanic. Les gars, c'est qu'un film comique. C'est bon, ça va pas vous bouleversifier votre existence
non.
pour faire rigoler, c'est tout.
Sinon, après, on traverse la Manche et on va s'éclater chez nos amis britanniques.
Oui,
qui,
ça...
de ces quelques années, nous ont sorti des bonnes...
Voilà, c'est ça, bah, les fameux duos de Nick Frost et de Simon Pegg, dont on a parlé dans le fameux
humour
britannique. Mais ça tient peut-être au fait que les Britanniques, eux, ont un humour qui transgresse, alors que nous, on reste quand même dans l'humour gentil. Parce que quand tu regardes les Louis de Funès, quand tu regardes même nos visiteurs... Je veux dire, on prend des scènes, on fait que ce soit drôle, que ce soit comique, ok. Mais je veux dire, on brise pas un tabou.
Non.
Je veux dire, on va pas taper là où ça fait mal, même si quelquefois on essaye quelque part. Ou alors maintenant on fait sauter.
Quelquefois quelque part, tu les as mis ensemble. Chapeau, hein.
Ouais, merci. Oui, parce que je suis capable en tant qu'Auguste. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire plus maintenant des ce qu'on appelle aux États-Unis des comiques à référence. C'est-à-dire qu'on parle par rapport à certains films ou certains personnages, notamment dans les Astérix avec Obélix, aux Jeux Olympiques, où là, tu avais carrément des stars à la fin. Quoi. Donc, les gens, ils sont contents parce qu'ils voient Zizou, ils voient
Schumacher
et autres.
Donc, en conclusion, le duo comique est donc basé sur une opposition dualiste de personnages. C'est beau ça, hein ?
Oui, tout à fait.
J'ai enfoncé une belle porte, là. Le comique, lui, naît à la fois de ce contraste et d'effets tels que le comique de gestes, c'est-à-dire les mimiques, grimaces.
Ouais. Bon, ou comme même, la Louis de Funès. Hein.
Oui, ou les vêtements ou les accessoires, des fois.
Oui, voilà, c'est ça.
Le comique de situation, la surprise, le rebondissement, les coïncidences, le retournement, ça.
Ciel, mon mari, oh, vas-y.
Oui. Voilà. Non, c'était ciel, mon mardi. Hein.
Ciel, mon mardi, ouais.
Oui, non, mais. Tu
ah, moi, je t'ai pu perdre. Ah, ouais, ouais.
D'accord, non, mais il ne s'arrangera pas. Le comique de mots, choix des mots, du niveau de langue, les répétitions et les quiproquos.
Ouais, ça, c'était le fonds de commerce d'Éric et Ramzy.
Voilà. Le comique de...
Enfin, et de Jamel Debbouze, hein, tous les ismes. Le panomanisme.
Oui, voilà, oui, oui. Ah, il est... ah oui, c'est bien expliqué, il est fort. Maître Capello, c'est vous ?
Tout à fait.
Sors de ce corps.
Bill Vezet.
Bon, oui, calme-toi, il y en a qui sont allés à l'asile avec ce mot. Le comique de mots, donc voilà, je sais plus où j'en suis. Le comique de caractère, donc le très moraux, le oui.
Il est très moraux.
Oui, oui, oui.
Oui, oui.
Après, non, j'allais dire, dire pas. Le très moraux propre à une classe d'être, c'est-à-dire les vices, les idées, etc.
Oui, bah voilà, je veux dire quand les méchants ils sont carrément vicelards et à être carrément débiles quoi.
Donc, voilà, oui, oui, oui. Et donc le comique de mœurs, l'effet comique est produit par les images d'une classe sociale ou d'une époque.
Bah, bienvenue chez les ch'tis, c'est ça. Mmh. Hein, je veux dire, voilà, le mec, il se croit un parisien, il débarque chez les ch'tis, et il les prend pour débiles, et puis voilà. Mmh. Il y a forcément des quiproquos dans la façon de parler, les traditions.
Exactement.
Donc, tu voulais nous parler un petit peu du Rocher ?
Oui, mais je n'ai pas eu le programme, donc j'ai pris sur mes souvenirs d'affiches que j'ai vues là-bas,
d'accord,
au loin. Donc, comment ?
Faut du cœur, faut du cou. Mais tout est possible. Ça, c'est une spéciale dédicace pour Baptiste.
Ah oui ? Oui, c'est vrai. Il est grand fan.
Oui, c'est ça. Il y a une affiche à Erdiwa qui cache.
D'ailleurs, je crois que mardi prochain, il vient avec sa coupe
de
cheveux. Vous n'avez encore rien vu. C'est un film donc, d'Alain René avec Sabine Azéma, Anne Consigny, Annie Dupéré. Dupéré ?
Oh là, Dupéré.
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 Dupéré, oui, oui. Annie Dupéré.
D'accord. Mathieu Almeric et Pierre Arditi. Donc après sa mort, Antoine, homme de théâtre, fait convoquer chez lui tous ses amis comédiens ayant joué dans différentes versions de sa pièce Eurydice. Tu commences pas à être jaloux, hein, parce que toi, t'as vu que des rôles de merde dans des pièces que... Hein ? Alors, c'est une émouvante méditation sur la transmission, le travail et la mémoire. Un hommage au théâtre, aux acteurs et au cinéma par le plus jeune des cinéastes français. Parce que je crois qu'il était en compète à Cannes, à Cannes 2012. Et donc le dernier film, enfin que je me souvienne parce que c'est pas le dernier, vous en doutez bien, c'est Associé contre le crime de Pascal Thomas. Donc c'est avec Catherine Frotte et André Dussolier.
Captain Pro.
Frotte. Non, non, c'est Frotte. Ouais, moi, ça sera frotte.
D'accord,
c'est comme Twilight. Pareil.
Voilà, c'est un diastique aussi.
Ah, ça n'engage que toi. Donc, c'est d'après Agatha Christie, The Case of the Missing Lady in Partners in Crime. Synopsis. C'est Prudence et Bélissère Beresford ont décidé de prendre un repos bien mérité. Mais une richissime héritière russe disparaît et Prudence ne résiste pas à l'appel du danger. Bélissère est bien obligée de suivre sa turbulente épouse. L'enquête va les conduire sur les traces d'un mystérieux savant qui détient le secret de l'éternelle jeunesse. Donc, c'est un régal que cette comédie loufoque est relevée, ET, hein, d'atmosphère décalée. Alors, Agatha Christie est loin, mais ce n'est pas grave. Ça reste un divertissement léger.
En même temps, elle est un peu mourue.
Oui, un divertissement léger et érudit, mais peine à se renouveler. Donc, je pense qu'il faut rester sur les deux premiers. Bon, même si là, ça vaut peut-être le coup d'aller passer un moment au cinéma.
Mais de toute façon, ça vaut toujours le coup d'aller au cinéma, le Pestel, moi je dis.
Bon.
Mais non, mais je veux dire, on a la chance quand même d'avoir un cinéma d'art et d'essai à 10.
Numérique maintenant.
Et numérique en plus. Le minimum, c'est d'y aller.
Oui.
Donc voilà. Après, c'est vrai que voilà, il faut toujours faire son choix, mais je veux dire, c'est...
Encore Evelyne Thomas.
On est des fois surpris aussi. C'est bien aussi de rentrer dans une salle de cinéma, de ne pas trop connaître le film et de se laisser...
Donc,
eh bien, mon cher Hugo, pour la semaine prochaine, moi, j'avais proposé, puisque...
Pourquoi t'as proposé ?
Non, parce que je vais proposer d'abord.
C'est un futur proche.
Oui, c'est ça.
Ce n'est pas un passé composé.
Si tu continues, par contre, toi, tu vas dire pas, c'est décomposé. Non, parce que quand même, je veux dire, quand on revoit tout l'ensemble des émissions qu'on a fait, c'est vrai que...
Qu'on a fait, on a fait quoi, les émissions? Donc, c'est un passé composé qui place avant, donc ça s'accorde. Oui.
Qu'on a fait, si tu préfères. Donc, toutes les émissions qu'on a faites, eh ben, je remarque quand même, on parle...
Jean-Marc très...
On remarque. Ah,
pardon, j'avais mal compris. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans?
On remarque donc. Alors, Hugo. Oui.
Oui, prends ta voix de velours.
Tout au long de toutes ces émissions qu'on a faites, j'ai quand même remarqué qu'on avait très peu fait cas des femmes au cinéma.
Oui.
Donc.
Tu as reçu des menaces des morts?
Oui, tout à fait. Des ligues féministes. Et donc, la semaine prochaine. Si tu le veux, et ce sera ta mission.
Oui.
On parlera de Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe?
Voilà.
Assassinée par la CIA?
C'est ça. Sa vie, son œuvre et surtout
son décès. Oui, sur le film qui était très, très, très bon d'ailleurs, qui est sorti en 2011 ou 2010, je ne sais plus. C'est My Week with Marilyn, que Michelle Williams dedans, voilà, que vous avez retrouvé dans la série Dawson.
Ouais.
Bon, ben, voilà. Messieurs, dames, sur ces belles paroles, nous parlerons donc la semaine prochaine d'une blonde.
Voilà, c'est ça, d'une blonde poupoupidou.
Voilà. Ouh, happy birthday, Mr. President, comme avait dit...
Marilyn dans une robe, hélas,
Lily,
trop
Lily grosse. Monroe.
Voilà, Lily Monroe.
Mais nous, c'est plutôt Lily Marlboro.
Allez, ciao, ciao, tout
ciao.
Le monde.
Ciao.
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer.
Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier. Mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy,
c'est toi le gros
et toi le petit.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.